Washington, la voix de l'Amérique. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Bonjour à tous, le monde aujourd'hui, édition du jeudi 1er mai 2014. Bonne fête du travail à tous en direct du studio 13 à Washington. Bagassi Koura et Anne Alberson, bonjour Anne.
Bonjour Bagassi, bonjour à tous.
Au sommaire ce matin, violente manifestation de collégiens et lycéens hier à Niamey au Niger. Au Nigeria, des centaines de personnes ont manifesté à Abuja pour exiger des actions du gouvernement au sujet des jeunes filles enlevées dans le nord du pays. Les militaires d'Eufor RCA, la force de l'Union africaine en Centrafrique, ont débuté hier leur mission de sécurisation de l'aéroport de Bangui. Et puis aujourd'hui, c'est la fête du travail dans la plupart des pays du monde. Nous nous pencherons sur les conditions des travailleurs en Centrafrique.
Aujourd'hui, vous avez encore des travailleurs dans des sites déplacés, il y en a qui sont exilés. Et ceux qui sont restés aussi sur place, avec beaucoup de difficultés, ils se rendent au travail.
La justice burkinabé s'est déclarée incompétente sur la demande d'exhumation du corps de l'ancien président Thomas Sankara.
Une décision d'incompétence à nouveau, et nous c'est ahurissant, c'est une décision très critiquable et c'est une décision qui du même coup dénonce que notre justice est une justice pratiquement sous soumission.
Le secrétaire d'État américain John Kerry est arrivé hier soir dans la capitale éthiopienne Addis Abeba. En Irak, selon la commission électorale, environ 60% des électeurs se sont rendus aux urnes hier pour les élections législatives. Et n'oubliez pas, en fin d'émission, nos pages sport et musique. Mais avant, le journal.
En République démocratique du Congo, 6 soldats de l'armée nationale ont trouvé la mort hier au Nord Kivu dans des affrontements avec les rebelles de l'APCLS. Information confirmée par le porte-parole militaire de la MONUSCO, le lieutenant-colonel Félix Prosper Bass. Par ailleurs, la MONUSCO a indiqué que la traque des rebelles ougandais du groupe ADF Nalu, se poursuit dans l'est de la RDC. Les autorités de Kinshasa avaient annoncé le 14 avril la prise de la dernière base de ce mouvement dans la province du Nord Kivu.
Violente manifestation de collégiens et lycéens hier à Niamey, la capitale du Niger. Des centaines d'élèves étaient dans la rue pour réclamer de meilleures conditions d'études. Ils auraient jeté des pierres sur les forces de l'ordre qui ont riposté par des tirs de gaz lacrymogène. La voix de l'Amérique a joint hier après-midi Anassa Djibrila, président de l'Union des scolaires nigériens à Niamey.
Ce qui s'est passé entre les élèves et les forces de l'ordre est lié à l'arrestation de 9 de leurs camarades au niveau du lycée Issa Korombé. Une arrestation qui fait suite à la sortie de ce lycée pour faire des revendications liées aux ventilations, aux ampoules et autres questions. C'était la semaine passée. À la suite de cette manifestation, il y a eu des casses, un véhicule qui était brûlé et des motos. La police judiciaire a dû mettre la main sur les premiers responsables de cette école. C'est relativement à cette arrestation que les lycéens et collégiens de la ville de Niamey ont exigé la libération de ceux qui étaient détenus à la police judiciaire. Dans les environs de 13h-14h, on les a libérés.
Voilà, c'était Anassa Djibrila, président de l'Union des scolaires nigériens. Il a été joint hier à Niamey.
Les militaires d'Eufor RCA, la force de l'Union européenne en Centrafrique, ont débuté hier leur mission de sécurisation de l'aéroport Mpoko à Bangui. Darina Naidoo.
Cette force est actuellement composée d'environ 150 hommes, essentiellement des Français, issus de Sangaris et des soldats du contingent estonien. Le fort RCA doit monter progressivement en puissance jusqu'à compter en juin 800 hommes. Ils prennent le relais des soldats de l'opération Sangaris. Au total, 9 nations européennes, Géorgie, France, Portugal, Espagne, Italie, Estonie, Lettonie et Pologne, enverront des soldats. Avec 150 hommes, la Géorgie sera le pays le plus représenté. L'Allemagne et la Grande-Bretagne mettront à disposition des capacités de transport aérien. Chaque nation prendra en charge le coût de sa contribution. Outre la sécurisation de l'aéroport, la force élargira ses missions à 2 quartiers de la capitale. Son mandat a été fixé à 6 mois. Eufor RCA a été lancé dans le cadre de la résolution 2134 du Conseil de sécurité des Nations Unies et vise à contribuer au rétablissement d'un environnement stable et sécurisé à Bangui. Son déploiement intervient alors que les violences persistent avec des attaques de villages et des embuscades visant la population musulmane.
Au Burkina Faso, la justice s'est déclarée incompétente sur la demande d'exhumation du corps de l'ancien président Thomas Sankara. Le dirigeant burkinabé avait été tué en 1987 lors du coup d'État qui a porté au pouvoir l'actuel président Blaise Compaoré. Dans la partie magazine, l'avocat de la famille de l'ancien président, Maître Benewende Sankara, reviendra sur le fond du dossier.
Le secrétaire d'État américain John Kerry est arrivé hier soir dans la capitale éthiopienne, Addis Abeba. Il doit s'entretenir ce jeudi avec les ministres des Affaires étrangères de l'Éthiopie, de l'Ouganda et du Kenya autour de la crise au Soudan du Sud. Selon un haut responsable du département d'État, M. Kerry aura des messages fermes pour le gouvernement de Salva Kiir et pour les rebelles. Scott Stearns est l'envoyé spécial de la Voix de l'Amérique à Addis Abeba.
Les États-Unis ont le mécanisme de faire l'embargo contre les responsables pour la violence au Soudan du Sud. Mais bien sûr, il y aura beaucoup plus difficile de faire l'embargo américain sans la coopération de l'Éthiopie, l'Ouganda et du Kenya, parce que la majorité des acteurs au Soudan du Sud a les investissements de terres, les maisons au Kenya, Ouganda et Éthiopie, pas les États-Unis.
Scott Stearns, l'envoyé spécial de la Voix de l'Amérique à Addis Abeba.
Des soldats soudanais et libyens ont sauvé plus de 300 migrants abandonnés par leurs passeurs dans le désert près de la frontière des deux pays. Un porte-parole militaire soudanais affirme qu'au moins 9 des migrants étaient morts et les survivants avaient faim et soif. Il indique que beaucoup étaient dans un état critique et transférés dans des villes voisines pour traitement. Les migrants soudanais qui tentent de fuir la guerre et d'autres misères utilisent souvent le passage de la frontière désertique avec la Libye pour atteindre la Méditerranée et l'Europe.
L'ONU empêchera un génocide au Soudan du Sud, un pays au bord de la catastrophe, ont averti hier à Djouba des responsables des Nations Unies. Selon l'AFP, les responsables onusiens ont averti aussi les dirigeants des deux camps qui s'affrontent qu'ils seraient tenus responsables des massacres et de la famine qui menacent. Les combats qui opposent depuis la mi-décembre l'armée fidèle au président Salva Kiir, aux troupes loyales à son ancien vice-président Riek Machar, se sont accompagnés de massacres et d'exactions contre des civils sur des bases ethniques.
Le djihadiste algérien Mokhtar Belmokhtar, dont un groupe a occupé pendant des mois le nord du Mali en 2012, a réaffirmé sa fidélité au chef d'Al-Qaïda, Ayman al-Zawahiri. C'est ce que rapporte l'AFP, citant un communiqué mis en ligne mercredi sur des sites islamistes. Mi-avril, Belmokhtar avait démenti dans une interview audio avoir changé d'idéologie. Selon des sources de sécurité, à la même période, Belmokhtar s'est retiré en Libye, d'où il entend désormais contrôler tout le Sahel. Il avait été donné pour mort ou tué par l'armée tchadienne au Mali le 2 mars 2013, une information ensuite démentie par Al-Qaïda.
Washington, la Voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Irak, selon la commission électorale, environ 60% des électeurs se sont rendus aux urnes hier pour les élections législatives, les premières depuis le retrait des troupes américaines fin 2011. Jean-Roger Bion.
Peu après la fermeture des bureaux de vote, Mugdad al-Sharifi, commissaire principal de la haute commission électorale irakienne, a annoncé que la participation s'est établie autour de 60% des inscrits sur les listes électorales. Cependant, il n'a pas donné de taux plus précis en l'absence d'informations dans certaines zones dites sensibles du pays. La commission électorale irakienne n'a pas pu préciser non plus quand le taux de participation officiel serait annoncé. Les résultats même des élections ne sont pas attendus avant la mi-mai. Près de 20 millions d'électeurs devaient choisir 328 députés sur plus de 9000 candidats. Dans les dernières 48 heures précédant le scrutin, les attentats ont tué près de 90 personnes à travers le pays, ce qui faisait craindre un fort taux d'abstention. Le scrutin s'est déroulé sous haute surveillance policière, tandis que les véhicules ont été interdits de circuler dans Bagdad. Nikolai Mladenov, l'émissaire spécial de l'ONU en Irak, a déclaré que ceux qui ont voulu perturber la campagne et le scrutin ont vu qu'ils avaient tort et que le peuple irakien a montré sa détermination à exercer son droit de vote. Les insurgés sunnites avaient appelé au boycott, accusant le premier ministre Nouri al-Maliki de monopoliser le pouvoir et d'accentuer les dissensions dans le pays.
Le Fonds monétaire international a accordé à l'Ukraine une aide de 17 milliards de dollars sur 2 ans. Cette aide, qui a été annoncée hier, permet le versement immédiat de 3,2 milliards de dollars nécessaires pour prévenir à Kiev d'être en défaut du paiement de sa dette. Ce fonds permettra également à l'Ukraine de recevoir un montant supplémentaire de 15 milliards de dollars promis par la Banque mondiale, l'Union européenne, le Japon, le Canada et les États-Unis.
Et puis 0,1%, c'est le taux de croissance de l'économie américaine au cours des trois premiers mois de l'année. Il s'agit du taux de croissance le plus faible en un an. C'est aussi une forte baisse comparée au dernier trimestre de 2013.
La Maison-Blanche a estimé hier que les circonstances de l'exécution d'un condamné à mort dans l'Oklahoma, dans le sud du pays, n'avaient pas respecté les critères d'humanité, Michel Joseph.
Ce mardi nuit, le condamné Clayton Lockett s'est débattu pendant plus de 40 minutes avant de succomber à une crise cardiaque dans une prison de l'Oklahoma. Lockett était détenu dans les couloirs de la mort pour meurtre et viol d'une adolescente en 1999. La nouvelle procédure d'injection létale expérimentée sur lui n'a pas eu l'effet attendu. Sollicité à ce sujet par la presse, Jay Carney, porte-parole de la Maison-Blanche, a prévenu qu'il n'avait pas discuté de cette affaire avec le président. Mais il a rappelé la position de Barack Obama, qui, a-t-il dit, affirme depuis longtemps que si les éléments concrets semblent montrer que la peine capitale n'a pas un grand effet de dissuasion, il pense aussi que certains crimes sont tellement horribles que la peine de mort est méritée. Cependant, M. Carney a ajouté que même quand la peine de mort est justifiée, elle doit être appliquée de manière humaine et que tout le monde reconnaît que cette affaire en Oklahoma n'a pas respecté ce critère d'humanité.
Voilà, c'est tout pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur La Voix de l'Amérique. Il est 6h11 en temps universel. Au micro, Bagassi Koura. On commence tout de suite par le Nigeria. Cela fait un peu plus de 2 semaines que des hommes armés ont attaqué une école dans le nord du pays et enlevé plus de 200 adolescentes de leur dortoir. Les autorités, quant à elles, sont silencieuses. Hier, plusieurs centaines de personnes ont marché à Abuja pour exiger des actions concrètes et visibles du gouvernement fédéral. Henri Francisque.
Plusieurs centaines de Nigérians, en majorité des femmes habillées en rouge, ont marché sur l'Assemblée nationale avec un message pour le gouvernement fédéral. Obi Ezekwesili, une ancienne ministre, est l'une des organisatrices de la marche.
Il y a peut-être des efforts qui sont faits, mais ce que les femmes sont sorties aujourd'hui pour dire, c'est que nous voulons une action rapide qui donne des résultats. Et le seul résultat que nous connaissons est une opération rapide de recherche et de sauvetage. Et nous voulons que nos filles reviennent vivantes.
Quelques 230 écolières enlevées de Chibok le 14 avril sont toujours portées disparues. Chibok est à plus de 1200 km de la capitale Abuja. Une distance qui n'a pas empêché quelques parents des filles enlevées de venir participer à la manifestation. La mère de l'une des filles est même tombée en sanglots.
Ramenez-les.
Les autres femmes sont venues la réconforter. Obi Ezekwesili a mis son bras autour de ses épaules.
Que disons-nous à notre sœur? Nous disons que nous serons à vos côtés jusqu'à ce que nos filles reviennent.
La pluie torrentielle qui s'est abattue sur Abuja n'a pas découragé les manifestants qui chantaient dans la rue. Tout ce que nous disons, c'est de ramener nos filles vivantes, chantaient les manifestants sur un air très connu. Le gouvernement fédéral et les militaires n'ont rien dit depuis la semaine dernière sur d'éventuels efforts pour trouver les filles. Personne n'a encore revendiqué la responsabilité de l'enlèvement, mais il a été attribué à la secte islamiste Boko Haram, dont l'insurrection a tué des milliers de personnes depuis 5 ans.
C'est aujourd'hui le 1er mai, la fête du travail dans la plupart des pays du monde. Les travailleurs marqueront l'occasion par des défilés, des manifestations et d'autres activités. Leurs homologues centrafricains, eux, ont des préoccupations plus immédiates de survie compte tenu de la situation dans leur pays, ainsi que l'explique Noël Ramadan, secrétaire général adjoint de l'USTC, l'Union syndicale des travailleurs centrafricains.
Le 1er mai de cette année, les travailleurs centrafricains vont passer cette journée dans des conditions particulières. Particulières du fait suite des événements que nous avons vécu. Aujourd'hui, vous avez encore des travailleurs dans des sites déplacés, il y en a qui sont exilés. Et ceux qui sont restés aussi sur place, avec beaucoup de difficultés, ils se rendent au travail. Donc, il y a la question de la liberté. La paix n'est pas encore revenue, c'est dans des conditions d'insécurité totale sur l'ensemble du pays que se déroule cette fête. Mais en même temps, dans le secteur public, les difficultés, le salaire n'a pas été versé pour les fonctionnaires. Ça rend encore la chose la plus difficile.
Compte tenu des problèmes que vous avez évoqués, quelles sont vos attentes vis-à-vis du gouvernement intérimaire?
On a été reçu par la présidente de la République, la chef d'État de transition. Ben, nous avons exprimé les préoccupations qui ne sont pas seulement les préoccupations des travailleurs, puisque c'est l'ensemble de la population centrafricaine aujourd'hui dans ces conditions. On espère que le gouvernement prendra en compte ce que nous avons dit, c'est-à-dire qu'au moins que les salaires nous soient versés régulièrement, mais la première des choses, c'est la liberté, la paix, la sécurité. Il faudrait que la sécurité soit rétablie. Il faudrait que l'effort de la communauté internationale, que la sécurité soit rétablie pour l'ensemble du pays, pour donner la possibilité aux uns et aux autres de circuler librement. D'abord, il y a ça. Ensuite, du point de vue conditions de travail, vous savez que les outils de travail ont été détruits, les entreprises, dans une certaine mesure, il y en a qui ont été liées. Aujourd'hui, vous avez des travailleurs en chômage. Tout ça, la transition nous paraît très courte pour pouvoir aller remettre tout ça en ordre, mais au moins que le minimum soit préservé, que les salaires soient élevés.
Voilà, c'était Noël Ramadan, secrétaire général adjoint de l'Union syndicale des travailleurs centrafricains. Il a été joint à Bangui.
Jacques Aristide avec vous, Washington Forum. Ce jeudi, la politique américaine pour l'Afrique subsaharienne, avec en toile de fond la tournée du secrétaire d'État John Kerry en Afrique cette semaine. Vos commentaires sur la page Facebook de Washington Forum. Rendez-vous donc ce jeudi à 19h TU sur la VOA.
En Guinée, la principale organisation syndicale menace de déclencher une grève illimitée à partir du 13 mai prochain. Mardi, les leaders syndicaux ont reçu le ministre de l'Emploi, mais cette rencontre n'a pas dissuadé le mouvement qui exige le respect d'un accord tripartite signé il y a 2 ans, correspondance de Zakaria Camara.
Au mois de décembre 2012, le gouvernement guinéen, le patronat et les syndicats signent un accord dans lequel le salaire des fonctionnaires guinéens doit connaître une augmentation progressive de 50%. Mais si le SMIG, salaire minimum interprofessionnel fixé à 440 000 francs guinéens est une réalité, le statut particulier des enseignants et des médecins constitue aujourd'hui des exigences du mouvement syndical guinéen. Selon Amadou Diallo, secrétaire général de la Confédération nationale des travailleurs de Guinée, si rien n'est fait avant le 13 mai, une grève générale illimitée sera déclenchée.
Actuellement, on parle de la santé, n'est-ce pas, des enseignants. Donc c'est ce qui actuellement va être fait dans le meilleur délai. Si nos revendications sont satisfaites, on peut suspendre. Mais si elles ne sont pas satisfaites, on ira au 13 en grève. Et ça, c'est clair.
C'est une négociation, a dit le ministre de l'Emploi et porte-parole du gouvernement. Albert Damantan Camara a voulu rassurer les syndicalistes de la volonté du gouvernement d'accorder une attention à leurs revendications.
L'aspect le plus urgent ces jours-ci, c'était les revendications liées au secteur de l'éducation et de la santé. Et donc, nous sommes venus voir ensemble ce qu'il était possible de faire pour désamorcer cette crise naissante, leur dire que nous restons mobilisés pour satisfaire leurs obligations, présenter des excuses, parce que s'il y a faute, il faut bien qu'il y ait des excuses, mais également voir les solutions qu'on peut envisager ensemble pour régler un certain nombre de problèmes.
C'est un problème administratif, ajoute le ministre de l'Emploi. Il y a des points de consensus, les autres restent des sujets de négociation, les autres, dont la situation des enseignants et des médecins, conditions pour éviter une nouvelle grève syndicale. En Guinée, Conakry, Zakaria Camara pour La Voix de l'Amérique.
Au Burkina Faso, la justice s'est déclarée incompétente sur la demande d'exhumation des restes de l'ancien président Thomas Sankara. Une demande faite en 2010 par la famille du défunt dirigeant burkinabé. Le capitaine Sankara avait été tué en 1987 lors du coup d'État ayant porté au pouvoir l'actuel président Blaise Compaoré. La famille doute que la tombe qui a été désignée comme celle de Sankara soit la sienne. Timothée Donamaï a recueilli la réaction de Maître Sankara.
Rappelez-vous que toutes les juridictions étaient déclarées incompétentes et ça a obligé la famille du président Sankara à se retourner vers le comité des droits de l'homme de l'ONU qui avait rendu une décision qui condamne le Burkina Faso pour avoir violé le pacte relatif aux droits civils et politiques. C'est fort pour cela que la famille a estimé qu'il est de son droit, garanti par la Constitution et l'ensemble des traités, de demander une expertise de la tombe. Une décision d'incompétence à nouveau, et nous c'est ahurissant, c'est une décision très critiquable et c'est une décision qui du même coup dénote que notre justice est une justice pratiquement sous soumission. Autrement dit, les dispositions qui ont été lues par le tribunal ne peuvent pas nous convaincre, ce qui va certainement amener le combat plus loin devant la cour d'appel. Mais en attendant, vous aurez aussi remarqué que le peuple burkinabé suit de près ce dossier. Et le tribunal était bondé de monde ce matin-là pour crier surtout son ras-le-bol parce qu'en 4 années, pour rendre une décision d'incompétence, cela dénote que c'était vraiment du ridicule et qu'il n'y avait pas de la sérénité dans la décision.
En 2006, le Comité des droits de l'homme de l'ONU avait demandé à l'État burkinabé de faire la lumière sur la mort de Thomas Sankara. Où en est cette initiative onusienne?
Justement, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est suite à cette décision que la famille Sankara a pris des mesures conservatoires en faisant des tests d'ADN sur les enfants. Et comme on nous a indiqué une tombe supposée être celle du président Sankara, il était tout à fait normal que la famille entreprenne ses démarches. Mais l'État du Burkina Faso, à ce jour, n'a absolument rien fait pour qu'il y ait une enquête sérieuse dans le dossier du président Sankara. À ce jour, les pendules sont à zéro et on est sur place avec une très mauvaise volonté du côté des autorités du Burkina Faso parce que au moment où nous vous parlons, il me semble même que pour voir la tombe du président Sankara, c'est la croix et la bannière parce que il y a de la police qui joue à l'intimidation.
Voilà, c'était Maître Benewende Sankara, avocat de la famille de l'ancien président burkinabé Thomas Sankara. Il a été joint à Ouagadougou.
La Voix de l'Amérique au Burkina Faso sur Ouaga FM, 105.2 à Ouaga et 101.1 à Bobo. La Voix de l'Amérique, c'est aussi sur Horizon FM, à Ouaga, Bobo, Koudougou, Wayigouya et Fada.
Écoutez le monde aujourd'hui et c'est l'heure des sports et j'accueille Timothée Donangmaï. Bonjour Timothée.
Bonjour Bagassi.
En football, Ligue des Champions, la finale sera 100% espagnole et madrilène.
La dernière demi-finale opposait l'Atlético Madrid à Chelsea en Angleterre. Les coéquipiers de Samuel Eto'o n'ont pas pu renverser la vapeur. Score final 3-1 pour l'Atlético qui se qualifie donc pour cette finale et qui affrontera le Real Madrid tombeur mardi du tenant du titre, le Bayern de Munich.
L'Algérie renforce sa protection pour la Coupe du Monde.
Des policiers brésiliens triés sur le volet, décrits comme très compétents, se chargeront d'assurer la sécurité de la sélection algérienne durant la Coupe du Monde. C'est ce qu'a annoncé Aïssa Naïli, directeur de la sécurité publique à la Direction générale de la Sûreté nationale algérienne. 2000 fans des Fenech sont attendus sur place durant la compétition. Pendant ce temps, ici aux États-Unis, les playoffs de la NBA se poursuivent.
Oui, hier soir, il y avait 3 matchs au programme dans le derby texan. San Antonio l'a emporté face à Dallas 109-103. Les Canadiens de Toronto ont battu Brooklyn de New York 115-113. Et enfin, dans le dernier match, Houston a battu Portland 108-98. Après les sports, la musique avec Roger Muntu. Bonjour Roger.
Bonjour Bagassi. L'artiste musicien Joe Etondé s'est éteint la semaine dernière à Douala au Cameroun de suite d'un malaise. Un de ses morceaux forts, Ndolassou. On écoute. Sinele biso mile mawe Pandoro ese nutu mene Tuma
Joe Etonde laisse à ses fans 6 albums de musique, une vingtaine d'expositions de peinture et un recueil de poèmes, les réflexions poétiques sorties en 2008.
Oui, Bagassi, Joe était un artiste complet, non seulement un très bon auteur-compositeur, mais aussi un grand peintre. L'auteur de Niambe venait d'ouvrir aussi une galerie d'art contemporain à Douala. Une grande perte pour le monde de la culture.
Joe Etonde, Ndolasu. Merci Roger.
De rien Bagassi, bonne journée.
Roger Moutou que vous retrouvez dans RM Show chaque jour à partir de 20h temps universel. Voilà, c'est donc sur ces notes que s'achève le monde aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Anne Alberson a assuré la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction de La Voix de l'Amérique. C'était Bagassi Koura au micro. Je vous souhaite une excellente journée.
Pour les dernières nouvelles en Afrique, aux États-Unis et ailleurs dans le monde, retrouvez-nous sur Internet, Facebook et Twitter. Washington, La Voix de l'Amérique.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.